Bonjour, l'émission La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Donc une série d'émissions qui étaient consacrées à Chantal Dupuis-Dunier, qui donc pour les trois premières nous a fait la gentillesse donc de venir auprès de nous. Alors aujourd'hui elle n'a pas pu donc venir donc témoigner de son recueil. En revanche, je pense qu'elle sera là pour les prochaines émissions, donc je suis très très heureuse. Donc voilà. Alors je vais en profiter pour vous faire une petite annonce donc concernant un spectacle qui est organisé par le Cercle Amélie Murat et l'association France-Pologne donc de Clermont-Ferrand. Un spectacle qui s'intitule Vision du visage et qui est donc tiré du recueil de la lauréate du prix Amélie Murat 2013, Elisabeth Launay-Dolé. C'est un recueil qui est consacré à la quête de la mère ou à la quête donc de la, enfin des ancêtres finalement. Elisabeth Launay-Dolé raconte la recherche de sa grand-mère, en fait, sa grand-mère qui était polonaise et qui, en 1925 ou 26 à peu près, a accouché donc de sa maman dans l'hôtel-lieu de Clermont-Ferrand et qui a disparu, qui s'est volatilisée, sa mère et puis elle, maintenant, donc, ont toujours été à la recherche de cette grand-mère qui a disparu et qui était d'origine polonaise. Donc nous avons décidé de faire ce récital avec Elisabeth et avec l'association France-Pologne. Il aura lieu le samedi 30 novembre à 18h au foyer Jean Richepin, rue Jean Richepin, donc la salle 4. C'est elle qui va lire ses propres textes et elle s'accompagne donc avec un compositeur qui s'appelle Gorecki, et elle a demandé à mon fils Gilles de Manche donc de l'accompagner au piano et bien entendu en jouant du Chopin. Voilà, donc venez nombreux, je pense que c'est un très beau recueil qui va assez profond, voilà. Et donc il y aura aussi des passages lus en polonais, voilà. Donc la communauté polonaise, je pense, sera intéressée par ce récital. Et bien voilà, donc pour le proche avenir, le 30 novembre. Alors je vais continuer donc la présentation d'Éphéméride où Chantal Dupuis-Dunier montre à quel point elle essaye de lutter contre le temps grâce à l'écriture qui lui permet de persister. Et elle nous a montré tout au long de ce recueil que pour elle, persister a bel et bien un sens. L'écriture va demeurer. Je relis d'ailleurs le premier poème pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance. Hein. Ce qui énonce le poème est toujours le geste. Aujourd'hui, celui offert par le passage d'un oiseau, brièveté dans la texture même des feuilles, entre lignes et nervures, sillage, comme aux marches d'un phare, les pas du dernier gardien, sable serti dans les angles du granit. Et elle écrit aussi, sur le calendrier de l'escalier infini, un autre oiseau est venu ce matin, et moi j'écris avec des mains de graines. Et on avait vu aussi dans la dernière émission que, bien entendu, la nature participait à cet effort pour imprimer sa marque. Et bien sûr, c'est le printemps qui permet vraiment donc de fixer l'avenir, qui permet au futur de s'inscrire dans le temps, le printemps. Avec toujours, bien sûr, le doute qui s'installe et qui demeure. Alors, je vais vous lire un poème qui a été écrit le 22 mars, au printemps, mais toujours avec cette possibilité de douter, tout en, bien entendu, essayant donc de s'inscrire et d'imprimer sa marque. Alors, le 22 mars, que je retrouve le 22 mars dans Éphéméride. Alors, futur, mais avenir, mais interrogation. Combien de temps durera l'aube ? Combien ? Avant que ne s'esquisse une déchirure dans le brouillard ? Un partage entre ceux du radeau qui ne soit pas celui de la viande et des crocs ? Avant que les bouches soient décousues, les langues greffées. Donc, comme toujours, hein, y a toujours cette conviction que peut-être vous laisserez votre marque, mais il y a toujours l'interrogation. Hein. Conviction, incertitude. Alors, la même interrogation se pose, donc à la page 370, alors je ne voudrais pas que je fasse comme ça, il faudrait que je donne la date, hein, le 10 avril. Mais là, on a plus de certitude quand même. Des poèmes se poseront encore sur les bureaux des écoliers, comme le phalène doré de Musset est descendu un jour sur mon pupitre, entre un encrier blanc et la rainure creusée par le porte-plume. Un seul instant, arrête, disait l'étoile. Alors arrête, c'est ce que vous dites au temps, comme l'étoile, et vous affirmez que des poèmes se poseront encore. Et à la fin du recueil, vous allez aussi imposer votre résilience. Enfin, je parle comme si Chantal Dupuis-Dunier était là. Donc, je peux peut-être dire, à la fin du recueil, Chantal Dupuis-Dunier impose sa résilience, sa persistance et nous lance un défi. 14 avril. Je vous convoque, vous, autres phares, morts et vivants à venir, oiseaux migrateurs, vous paraîtrez au bout de cette jetée blanche. Ce sont les matins qui importent, la poudre déposée par leurs ailes fragiles sur le bout de nos doigts, leur déplacement fugace vers d'autres mains, ce qui énonce le poème et toujours le geste. Alors, c'est la fin d'ailleurs du recueil éphéméride. On est le 14 avril et il avait commencé d'ailleurs un 13 avril, avec un 15 avril, pardon, avec la thématique du geste, ce qui énonce le poème et toujours le geste. Et vous terminez, Chantal Dupuy-Aignier termine avec cette image. Donc en fait, on a l'impression que, eh bien, elle nous propose un éternel retour. La poésie nous propose un éternel retour. La poésie va de papier en papier, de main en main. Elle dit, ce sont les matins qui importent. La poudre déposée par leurs ailes fragiles sur le bout de nos doigts. Hein. Donc c'est la main hein, qui va apporter le papier et qui va énoncer. Donc cela rassure, cela permet au poète donc, de concevoir un avenir. Elle le dit, vous paraîtrez au bout de cette jetée blanche. C'est un futur donc, qui essaye d'imposer une certitude, mais qui en même temps peut-être montre qu'elle essaye de se rassurer hein, vers d'autres matins. Donc voilà en fait pour le sens profond de ce recueil, hein, qui, nous l'avions bien vu avec Chantal, veut s'inscrire sur le registre du temps en faisant se télescoper les différentes dimensions temporelles, on avait vu, hein, temps du passé, temps de la mémoire, temps du présent, temps de l'anecdote, temps de l'avenir. Hein, et où l'on sent toujours ce désir de persistance, hein, avec une certaine angoisse. Et vous le disiez vous-même, hein, lorsque j'écrivais ce recueil chaque soir, je m'endormais en me disant quel sera le poème qui viendra demain. Qu'est-ce qui me fera signe ? Quel sera le geste qui me fera signe ? Mais je pense qu'au-delà de cette approche existentielle du recueil profonde, hein, eh bien, on pourrait peut-être se laisser porter par des moments plus décontractés, lorsque Chantal Dupuy-Aignier évoque des scènes plus légères hein, ou des paysages qui se suffisent à eux-mêmes, comme dans des croquis ou des sketchs autonomes. Là, on va en faire défiler quelques-uns. Par exemple, le 3 août. Alors, laissez-moi le temps de retrouver le 3 août. On va commencer par l'été, saison de la plénitude, le 3 août. Petite anecdote, petite scène. 3 août. Saint-Julien-Chapteuil, musée Jules Romain. Ses diplômes sous verre, du certificat d'études, du baccalauréat, de l'enseignement supérieur, ses titres encadrés de chevalier, d'officier, de commandeur de la Légion d'honneur, son fauteuil en cuir, au dossier incrusté d'une couronne, derrière un bureau sculpté comme un autel, manque sa première sucette, son pot de chambre en porcelaine et un reliquaire contenant son pouce et son index droit. Donc c'est certainement une allusion à quelqu'un qu'elle connaît, enfin une personnalité de sa famille, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà un petit portrait, une petite scène, donc amusante, on imagine ce personnage important avec ses diplômes sous verre. Alors maintenant des lieux et des paysages. Alors par exemple, le 22 juin à Clermont-Ferrand. Alors je retrouve le 22 juin. 22 juin, Clermont-Ferrand. Pour quelques jours en ville, jeu de cubes aux pièces multiples, aux assemblages surprenants, verticalité de consonnes hautes. Ici, la pierre est sombre, du feu refroidi, de l'orée du monde. Une flaque d'eau devant la cathédrale, miroir. Les canines des flèches mordent le pavé. Art raréfié, l'asphalte fond, mirage. Alors là, on a toute une atmosphère. On a un 22 juin qui devait être un petit peu plus vieux, mais qui n'empêche pas Chantal Dupuy-Aignier de se rappeler que cette pierre de la cathédrale est jaillie du feu, jaillie de la lave. La pierre est sombre, du feu refroidi, de l'orée du monde, de l'orée d'un monde. Donc il a plu, et donc c'est un jeu de miroir, hein, puisque les flèches de la cathédrale se reflètent dans la flaque d'eau. Alors le 13 juin, autre scénette, il y a des fées cachées dans le tableau, de ces petites fées de la campagne anglaise, en robe pastel, avec une pervenche pour chapeau. De loin, on les confond avec des libellules. L'une boit dans ses paumes, au bord d'un pot de fleurs. Une autre s'est posée près de la boîte aux lettres, dont la peinture verte s'écaille. Depuis 3 jours, pas de courrier, seul le journal, les fées divers et, certainement, ces papillons. Enfin, on ne sait pas bien ce que sont ces fées. Peut-être des libellules, peut-être des papillons. Mais c'est très bien évoqué, des petites fées de la campagne anglaise, hein, en robe pastel, avec une pervenche pour chapeau. Donc, elle évoque à travers ces papillons, certainement, donc, des souvenirs liés à l'Angleterre. Voilà, avec toutes ces couleurs flashy, comme à laquelle la reine nous a bien habitués, d'ailleurs. Alors, on va continuer avec le mois d'août. On va revenir au mois d'août. Le 20 août, petite scène aussi. Scène de la vie quotidienne. Sur la pierre à évier, un panier ventru pour égoutter les salades, que l'on faisait tourner très vite à bout de bras, afin de ne pas en perdre une feuille. Dans le placard de la cuisine, les verres exotiques d'un service à orangeade représentaient une cigogne posée sur des toits alsaciens. Donc, souvenir domestique, mais un petit peu exotique aussi, puisque ce service à orangeade est un petit peu spécial. Donc là, on est loin des questions existentielles qui donnent le fondement du recueil. On a un petit peu de fantaisie, on a un peu plus de légèreté, mais tout en étant bien ancré dans le passé, parce que je pense que ce panier à salade, hein, que l'on faisait tourner très vite, eh bien, il est bien ancré dans le passé aussi. Alors, passons maintenant à l'automne, le début de l'automne, 17 septembre. 17 septembre que je trouve la page. En bordure du pré, les coulemelles ont remis leur chapeau chinois au pied d'un pin. Une clavaire en cheveux exhibe ses licencieuses boucles blondes. Tout à fait dans le début de la saison des champignons. 18 septembre, à flanc de colline, les vignes jouent leurs libres accords de blanche et de noir pour un public de moineaux connaisseurs en frac de soirée. Donc les grains de raisin, bon, donc certainement les raisins blonds, les raisins donc pourpres et violets, qui deviennent des notes blanches et noires avec les moineaux en frac de soirée. Alors on va plus profond maintenant dans l'automne. Alors certainement donc plus froid, plus sombre. Alors on va arriver au 6 novembre. Dès 16h, la nuit aveugle le village, les volets tôt refermés intériorisent le soleil. Donc là, bien entendu, on s'enfonce vers l'hiver. Et le 18 novembre, les petits clochers, mines de graphite, colorient le ciel en bleu ardoise, ambre vert des prairies, orangé des vignes, le Beaujolais nouveau, avec goût de mousseron et de cassis. C'est une belle journée de novembre qu'elle nous propose ici. Alors je vais vous proposer un petit chant, donc alors qui parle de l'automne, alors qui parle plutôt donc de l'automne triste, de l'automne, les brumes de l'automne. Alors c'est un chant qui a été composé donc par Fauré et donc avec un texte d'Armand Sylvestre. Je vais d'abord vous le lire, le poème. Armand Sylvestre. Automne, au ciel brumeux, aux horizons navrants, aux rapides couchants, aux aurores pâlies, je regarde couler comme l'eau du torrent tes jours faits de mélancolie. Sur l'aile des regrets, mes esprits emportés, comme s'il se pouvait que notre âge renaisse, parcourent en rêvant les coteaux enchantés où jadis sourit ma jeunesse. Je sens au clair soleil du souvenir vainqueur refleurir en bouquet les roses déliées et monter à mes yeux les larmes quand mon cœur, mes 20 ans, avait oublié. Donc là, on a bien la sensation aussi du temps qui passe et qu'on ne peut arrêter. Alors voilà la version chantée.
Automne, au ciel brumeux, aux horizons navrants, aux rapides couchants, aux aurores pâlies, je regarde couler comme l'eau du torrent mélancolie.
Donc voilà pour cette chanson de forêt, donc qui semblait bien adaptée donc à l'automne, décrite par Chantal Dupuis-Dunier. Alors je vais continuer d'ailleurs avec l'automne. On va passer maintenant au 20 novembre. Alors à Rouen, Jeanne était au bûcher pour garder vierge un cercle ménagé dans la pelouse, des jardiniers asperges de désherbant, les quelques pousses issues des cendres de la Sainte. Donc là, à travers l'automne, on replonge dans un passé tout à fait historique. Alors maintenant, l'hiver, pourquoi pas l'hiver, le 19 décembre. Donc Chantal Dupuis-Dunier est très proche de la nature, hein, qui elle, donc, effectivement, suit les courbes du temps. 19 décembre, Clermont-Ferrand. Ce soir, loin de toi, une insomnie de neige enveloppe ma nuit. Je veille sur la pensée de toi et sur des bribes de poèmes qui passent au rythme des voitures en bas dans la rue. Poème un peu d'amour. Le 21 décembre, tout à fait différente, tonalité tout à fait différente, ancrée dans la réalité sociale, Clermont-Ferrand toujours. Le froid éventre les abris de carton où dorment les hommes des trottoirs, blottis contre leurs chiens, avec des journaux pour chaussures, l'alcool comme dernier sein, une photo fanée dans la poche de leur chemise. Leur jeu très net au niveau des allitérations, hein, le froid éventre les abris de carton où dorment les hommes des trottoirs. Donc une réalité sociale dure. Continuons notre progression. Donc on va arriver maintenant au 15 janvier. 15 janvier, toujours l'hiver. 15 janvier, la neige a fondu. Ce matin, la boue scintille et craque. Quelques téméraires pensées sauvages poussent contre le mur de la cour. Les doigts nus des arbres désignent au ciel la sculpture ébauchée par le passage d'un avion. Donc là aussi, on a l'impression que c'est une observation, mais en même temps, on a l'impression qu'il veut quand même arrêter le temps, puisque les doigts des arbres désignent au ciel la sculpture ébauchée par le passage d'un avion. Cette sculpture, elle est là pour durer. Elle est, donc Chantal Dupuis-Dunier essaye de solidifier la trace qui est fugitive d'un avion. Donc voilà aussi une description qui est chargée de sens. Alors on va s'avancer vers le printemps maintenant, on va passer au 9 mars, pas tout à fait encore le printemps. Un ciel minéral, composé par les strates géologiques des nuages, quartz et craie mêlés, dresse une falaise abrupte derrière le paysage, la montagne couvre la base de la toile de grands traits outre-mer. Alors les grands traits outre-mer, c'est certainement la montagne, hein, qui se détache sur la toile. Le 10 mars, le printemps arrive. Les bourgeons débutants ponctuent de points marrons les lignes des branches. Un frémissement de vers parcourt les prés sur les plateaux. On voit sortir les vaches des étables. Le 12 mars aussi. Ici, nos veines violettes, les mêmes qui courent sous la terre et sous le papier, sources d'encre cachées qui inscrivent au long des rives la déchirure du passage et les courbes du mouvement. Voilà. Les bras du lierre, 13 mars, soutiennent les arbres à mourir. Beauté hypocrite du geste. Donc là, on est déjà dans un paysage plus intérieur. Donc on voit que ces scènes-là sont descriptives. Le poète n'intervient pas. Hein, donc, une autre encore, en été, le 7 juillet. Un pépiment inhabituel nous fait lever la tête. Deux chatons nouveau-nés, cachés sous une fêtière de la plus proche ruine, avancent leur museau noir au-dessus du vide. Bernard l'ermite, dans leur coquille de terre cuite. Donc c'est très bien saisi. Hein. Deux chatons avancent leur museau noir au-dessus du vide. C'est bien saisi et c'est charmant aussi. 24 juillet, deux corbeaux survolent en éclatant de rire la vallée selon un trajet rectiligne et immuable. Au-dessus des ruines du château, un Milan appose le M majuscule de sa queue sur la cire rouge du couchant. Donc, vous voyez, elle observe, elle décrit, elle imprime. Mais dans d'autres scènes, elle va passer à la dimension existentielle. Alors, pourquoi dans certaines scènes, se contente-t-elle de la description? Pourquoi dans d'autres, va-t-elle rajouter une dimension plus psychologique? Question d'humeur, de morale, de sensibilité. Je n'ai pas la réponse, puisque Chantal Dupuis-Dunier n'est pas là. On lui posera peut-être la prochaine fois. Alors, par exemple, le 7 août, une scène, au départ, on commence par une scène descriptive, et puis après, vient la réflexion. Le petit garçon joue avec ses frères. Ils jouent aux soldats dans le terrain vague. Le père a fabriqué pour eux des épées, deux morceaux de bois assemblés par des pointes. Les enfants confondent les soldats avec des chevaliers. Dans leur livre d'histoire, les chevaliers sont vêtus de boîtes de conserve et ont un bec comme les oiseaux qu'ils relèvent pour embrasser les princesses. C'est charmant, c'est descriptif. Et puis, plus tard, le petit garçon sera soldat pour de vrai. Il tuera ses frères et il violera les princesses. Donc là, il y a une chute un peu inattendue. Donc je poserai la question à Chantal Dupuy-Dunier la prochaine fois. Je vais même le marquer sur mes feuilles pour lui poser cette question. Alors, de même, le 26 août, il va y avoir une question, alors que ça a commencé comme une description neutre. Août s'effiloche, plus de petit déjeuner dans la cour, à l'ombre du mur, ni de dîner tardif, bras nus, devant la porte. Nous apprivoisons la fraîcheur de la maison. Nous faisons route vers une saison intérieure où la mort aux branches camoufle son visage sous des couleurs vives. Donc, c'est peut-être moins brutal, mais il y a quand même cette perception de la mort qui approche. C'est tôt, déjà, le 28 août, pour sentir la mort approcher. 28 août. En bordure des prés, les ronciers ploient sous des guirlandes de murs, entremêlées de fleurs tardives. C'est toujours en lisière que le hasard fait confidence de mots à celui qui passe dans ses marges, ou ignoré l'écorchure et le temps. Donc là, la tonalité est beaucoup plus sombre. 28 août, c'était le 28 août. Eh bien, on va l'illustrer par un extrait de Tchaïkovski de Casse-Noisette. Donc toujours le 25 septembre, un garçonnet sur la plateforme de l'autobus tend la main vers le ballon qui vole au-dessus de sa tête. Dans ma cinémathèque enfantine, un ballon rouge expire au milieu d'un terrain vague. La mort possède la légèreté d'une baudruche écarlate. Vous voyez, on part d'une scène descriptive et on arrive à une réflexion existentielle. Donc pourquoi certaines scènes motivent telle cette approche et d'autres restent-elles neutres? Donc on lui posera la question la prochaine fois. Et le 22 août aussi. Donc là, le 22 août, ce n'est plus du tout une description. On est carrément dans la réflexion profonde. En chaque homme qui meurt, c'est toujours un enfant dont la tête s'abandonne sur un oreiller de friandises et de flonflons. Je trouve ça extrêmement beau parce que on revient sur le thème de l'éternel retour, hein. Là, on essaye d'oublier que finalement, on peut effectivement faire abstraction de la mort, puisque l'homme qui va mourir, eh bien, c'est toujours un enfant. Donc, on revient au point de départ. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facettes dans ce recueil. Et on pourrait donc s'arrêter à toutes les pages. Hein. Je vais toutefois fermer Éphéméride, car il faut bien passer à un autre jour. Mais je garde pour vous, auditeurs, ces quelques vers fulgurants, tels des apophègmes, donc, qui sont tirés d'Éphéméride. La grandeur réside dans l'humilité de la terre et le miracle du lait. La page n'est pas un miroir, mais un mur à abattre. Un ciel sans ailes ne serait plus qu'une hypothèse. Même dans la tombe, on ne demeure pas. Et cette pensée-là, synthèse de la genèse de votre écriture. Mon enfance est une lettre, demeurée sans réponse. Depuis, j'écris. Donc voilà, c'est sur ces belles pensées donc, que je terminerai cette émission sur consacrée à Éphéméride. La prochaine émission sera consacrée à un autre recueil de Chantal Dupuis-Dunier. Ben, je vous laisse le soin de le découvrir. Donc, c'était La Voix des Poètes, Radio Altitude, Claire de Mange, sur Chantal Dupuis-Dunier.